bienvenue dans cette émission. Adoption hier au Sénat de la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Dans son contenu, cette proposition de loi assure aux anciens présidents de la République élus un certain nombre de privilèges dont ils jouissent à la fin de leur mandat, en plus du statut des sénateurs à vie garanti par la Constitution. Cependant, contrairement à la proposition du président de la République d'étendre ses privilèges aux différents chefs d'institution du pays, le Sénat, à travers la loi votée, accorde un statut particulier et des privilèges aux seuls anciens présidents de la République élus. Quelle analyse faire de cette proposition de loi? C'est la question du débat et nous en parlons avec professeur Jacques Joly, il est sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC. Il est aussi ancien vice-président de la CENI. Bonsoir professeur Jacques Joly.
Bonsoir.
Professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales et département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Moudimbi.
Bonsoir monsieur Guy Maté.
Et Etienne Vivien Kalonji, il est analyste politique indépendant et chercheur en résolution non violente des conflits. Bonsoir Etienne et Vivien Kalonji.
Oui, bonsoir mon estimé professeur Guy Maté.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus a été adoptée hier mercredi au Sénat. Initiée depuis 2015 par le sénateur Modeste Moutinga, cette proposition de loi est envoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Dans son contenu, cette proposition de loi assure aux anciens présidents de la République élus un certain nombre de privilèges dont ils jouissent à la fin de leur mandat, en plus du statut de sénateur à vie garanti par la Constitution. Cependant, contrairement à la proposition du président de la République d'étendre ces privilèges aux différents chefs d'institutions du pays, le Sénat, à travers la loi votée, accorde un statut particulier et des privilèges aux seuls anciens présidents de la République élus ayant assumé valablement leurs fonctions et quitté les pouvoirs à la fin de leur mandat conformément à la Constitution. On écoute l'auteur de cette proposition de loi, le sénateur Modeste Moutinga, au micro de Michel Kifindangoy.
L'option est levée. La proposition qui est venue d'une manière irrégulière a été rejetée. Donc la plénière du Sénat va continuer l'examen de la loi dans sa forme initiale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une loi portant statut des anciens présidents de la République élus. La notion élu est très importante parce que son mandat est exécuté jusqu'à sa fin conformément à la Constitution et terminé dans de bonnes conditions, conditionne le fond de cette loi. Et j'en suis content et fier qu'on en soit arrivé là. L'option qui a été rejetée, c'était celle d'étendre cette loi au chef de corps constitué. Ça veut dire que cette loi ne concerne que l'ancien président de la République qui a été élu au suffrage universel, qui est garant de la nation, qui a porté beaucoup de charges, et non un premier ministre qu'on peut nommer et chasser un bon matin.
Nous précisons que le sénateur Modeste Moutinga que nous venons d'écouter parlait avant que la loi ne soit adoptée au Sénat. Professeur Jacques Joly, sénateur de l'opposition, inspecteur général du MLC, vous êtes aussi ancien président de la CENI. En initiant une telle loi, quelles ont été les motivations des législateurs que vous êtes?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je saisis l'opportunité d'abord pour saluer le professeur Jeff Moudimbi de l'université de Lubumbashi ainsi que monsieur Vivien Kalonji, analyste. J'ai été moi-même vice-président de cette commission spéciale chargée d'enrichir cette proposition de loi du collègue Moutinga. Je crois que la ratio legis de cette loi est dégagée dans l'exposé des motifs. La République démocratique du Congo a renoué avec le jeu démocratique depuis 2006, après que nous ayons une transition post-conflit de 2003 à 2006. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase délicate de transition. Nous avons l'opportunité d'expérimenter pour la première fois l'alternance démocratique au sommet de notre pays. Vous vous rappellerez qu'en 1960, Nous avons eu un président qui a été élu au suffrage universel indirect et qui a quitté le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il est président Kassavubu, a été pratiquement exilé à l'intérieur et il est mort dans des conditions qui ne sont pas totalement claires aujourd'hui en Tsingini, dans le Bas-Congo. C'est donc un exil intérieur. Le président Kassavubu, après lui, il y a le président Mobutu, qui est resté au pouvoir pendant plus de 32 ans et qui a quitté ses pouvoirs que suite à une guerre qui a été initiée par l'AFDEL et ses alliés rwandais-ougandais. Et le président Mobutu est allé mourir en exil extérieur. Il est enterré dans un cimetière chrétien à Rabat au Maroc. Le troisième président, Moussa Laurent-Désiré Kabila, a été assassiné chez lui au Palais de Marbre. Et là, nous avons un président qui est arrivé au pouvoir très jeune, à 29 ans. Aujourd'hui, il a 45 ans. Et le message que nous voulons lancer à travers cette proposition de loi, que après la présidence, il y a la vie. Et qu'au-delà, peut-être, du statut du sénateur à vie, qui peut apparaître étroit, à travers cette proposition de loi portant statut des anciens présidents, nous avions voulu donner un statut. Un statut d'abord sécuritaire. C'est que le président qui quitte, qui a été élu démocratiquement et qui quitte le pouvoir dans le respect de la Constitution, jouira d'une protection en matière de sécurité. Deuxièmement, le président qui quitte les fonctions a droit aux honneurs, à la dignité et au respect de la République pour ce qu'il a rendu comme service à la nation. Et ce président a droit à une protection sociale, notamment en matière de santé, lui, sa famille. Il a droit à son passeport diplomatique. Il ne faut pas qu'il meure parce qu'il n'a pas eu de soins de santé, comme on semble dire pour le président Kassavubu. Et ensuite, il a droit à un certain nombre d'avantages spéciaux, notamment, il a droit à une résidence. Il a droit à une location annuelle pour services rendus. Donc, il ne sera pas un président qui est obligé d'aller se cacher, mais ce sera un Congolais qui aura rendu service et qui bénéficiera donc de droits civils, même si, après avoir fait deux mandats, ce président-là ne peut pas redevenir président de la République, mais il peut devenir enseignant à l'université. Voilà donc la philosophie de cette proposition de loi. Il s'agit d'une contribution à l'émergence d'une démocratie apaisée, pour autant que nous tous, nous voulons que nous puissions construire un état de droit démocratique.
Voilà, après ces privilèges, n'est-ce pas, que vous accordez à l'ancien ou aux anciens présidents de la République élue que vous venez d'expliquer. Et, professeur Jacques Joly, la Constitution dispose à son article 104, alinéa 7, que les anciens présidents de la République élue sont des droits sénateurs à vie, c'est-à-dire que, en plus des privilèges dont ils bénéficient du fait d'être sénateurs, vous, législateurs, vous venez de leur accorder des droits supplémentaires.
D'abord, je voudrais vous dire que ce n'est pas le premier texte à la matière. Déjà après l'indépendance, dans les écoles de droit congolais.
Donc ce n'est pas une première
dans les écoles de quoi du Congo, on a déjà accordé une pension à vie à un président. Ensuite, en 2002, il a été signé, promulgué une loi portant pension spéciale aux anciens présidents de la République. Et en 2006, il y a un décret qui a organisé le statut de l'ancien président et des anciens vice-présidents de la République. Mais nous avons, en analysant ces différents textes, et surtout l'article que vous venez de donner, nous avons l'impression que les statuts de sénateur à vie, nous sommes nous-mêmes sénateurs, n'étaient pas à la hauteur de la charge d'un président de la République d'un grand pays comme la RDC. Vous savez, c'est une charge immense et dans les régimes qui est de nôtre, le président de la République est pratiquement la clé de voûte. Il prend un certain nombre de décisions graves pour protéger la République et nous avons estimé que pour, n'est-ce pas, reconnaître à ses citoyens, ses anciens présidents élus en raison des hautes fonctions exercées à la tête de l'État, ils ont eu des sacrifices. Il y a d'autres qui sont arrivés au pouvoir à 29 ans. 29 ans, vous voyez, un jeune homme qui, n'est-ce pas, doit faire 16 ans, il sacrifie sa jeunesse. Et il ne faut pas qu'après, on les traque. Si il y a des choses qui sont lui reprochées, et il y a le statut pénal, nous les disons, il doit être poursuivi.
Justement, professeur, oui. Vous n'êtes pas en train de faire pratiquement des anciens présidents de la République des personnes intouchables, des personnes qui n'auront de compte à rendre à personne, quelle que soit la gravité des actes qu'ils auront, n'est-ce pas, qu'ils auront posés pendant l'exercice de leur mandat.
Mais c'est faux, c'est faux. D'abord, il faudra que des amis qui disent ça puissent entrer en contact avec le texte qui va aller dans l'autre chambre. D'abord, si vous lisez les statuts pénals à l'article 11, par exemple, nous disons clairement que les poursuites contre un ancien président sont engagées conformément à la Constitution et aux lois en vigueur. En d'autres termes, les statuts d'un ancien président ne doit ni nuire ni profiter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été un ancien président qu'on a pris certaines autres décisions que dès que vous quittez, on commence à vous harceler. Il faut que nos présidents et nous-mêmes, nous comprenions que après la présidence, c'est ni la mort, ni la prison, ni l'exil, qui a une vie. Et que, comme dans d'autres pays, vous allez au Botswana, vous allez en Afrique du Sud, il y a des présidents. Sauf d'ailleurs, comme je dis, lorsque les infractions ont été commises. Et là, nous rappelons les prescrits de l'article 166 et 167. Et nous disons que lorsque les infractions ont été commises à son temps et qu'elles étaient gelées, ben, les poursuites continueront.
Merci, professeur.
Voilà ce que nous voulons dire. Donc, nous n'ajoutons rien. Nous n'inventons rien.
Merci.
Nous restons dans un statut qui reste conforme à la Constitution.
Merci. Nous allons vous redonner la parole. Professeur Diop Moudimbi, professeur à la Faculté des sciences sociales et département des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Comment vous comprenez cette démarche des législateurs à vouloir doter les pays d'une loi relative au statut des anciens présidents de la République élus?
Merci beaucoup, M. Guy Maté, pour la question que vous venez d'imposer, mais avant toute chose, c'était que je m'acquitte aussi d'un agréable devoir, celui de saluer le professeur Jacques Ndioli et notre compatriote Vivien Kalonji. Et personnellement, je salue le Sénat d'avoir adopté cette loi, parce que je considère d'ailleurs comme étant un acte de patriotisme. Le président de la République, il est l'incarnation de la nation. Et surtout lorsqu'il est élu au suffrage universel. Alors, à ce moment-là, compte tenu des hautes fonctions qu'il a accomplies pour la nation, ce n'est pas un monsieur qu'il faudrait remercier au travers la monnaie des singes. Il faudrait que la nation soit reconnaissante pour tout ce que le président de la République a pu consentir comme sacrifice pour la nation. Et un autre élément que nous pouvons apprécier, c'est que la loi s'applique à tout président élu et qui quitte ses fonctions à la fin de son mandat conformément à la Constitution. Et ici, il y a deux éléments très importants. Le président élu, cela signifie quoi? Cela signifie que les constituants ou encore les législateurs voudraient faire remarquer à tous les acteurs politiques que l'élection demeure la seule voie noble pour accéder aux fonctions politiques de chef de l'État. Deuxième élément, il ne faudrait pas que quand on est élu, qu'on s'accroche éternellement au pouvoir. L'exercice d'un pouvoir politique doit être considéré parce qu'on dit que, puis qu'il accepte aussi de quitter à la fin de son mandat. À partir de là, je comprends qu'on voudrait aussi revenir sur un élément très important, de considérer l'exercice des fonctions politiques comme un contrat de bail. C'est-à-dire que le locataire est obligé de quitter sa fonction à partir du moment où le contrat de bail arrive à terme. Et ce que nous pouvons lire entre les lignes, c'est que on demande carrément au président de la République d'accepter et de respecter la Constitution, que à la fin de mon mandat, je peux partir parce que la loi me garantit un certain nombre de privilèges. Et je pense que cela est à saluer. Mais la crainte, je pense que le professeur Jacques Ndioli venait un peu d'élucider quelque chose dans ce sens-là, c'est de considérer que la loi vient maintenant couvrir tout celui qui a exercé les prérogatives des chefs de l'État. Alors, pourquoi ? Parce que, bon, on croit que c'est vrai, une fois qu'on est président de la République, bon, à cause de cette loi-là, bon, on devient alors intouchable. Mais ce qui est important, c'est que, avant d'accéder au pouvoir, le président de la République fait la déclaration de tous ses avoirs. Et à la fin de son mandat, je pense que c'est aussi un exercice légal sur lequel il faudrait s'appesantir, qu'il déclare aussi tous les avoirs. Alors, à partir de là, on peut aussi estimer quels sont les avoirs qu'il a acquis licitement. Je pense que pour les avoirs acquis de manière tout à fait illicite, et la loi doit jouer son rôle. Et à ce moment-là, ça va amener à quiconque exercerait ses fonctions de comprendre qu'il n'est pas un intouchable. À tout moment, la loi peut toujours le rattraper. Voilà un peu, M. Guimaté, la lecture que je peux faire de cette loi.
Oui, professeur, comment vous comprenez la volonté exprimée par le chef de l'État de voir cette loi être étendue aux autres chefs d'institution?
Vraiment, je salue les attitudes des sénateurs d'avoir rejeté cette proposition-là. Parce qu'il n'est un secret pour personne. Qu'est-ce que l'on fait pour accéder à la primature? Contrairement au président de la République qui est élu. Mais il y en a qui ont accédé à la primature tout simplement par le fait de la traîtrise ou par le fait de poursuivre ses propres intérêts. Alors comment voulez-vous qu'on puisse protéger des gens comme ça? Et il n'est un secret pour personne. Vous savez déjà que dans ce pays, il y a eu même des gens qui ont été premiers ministres. Mais à la fin de leur mandat, ont voulu même prendre les biens qui appartenaient à l'État. Donc, il n'y a pas eu de concours.
Professeur,
n'est-ce pas aussi l'expression de la population.
Professeur Jeff Mudimbi, n'est-ce pas aussi une façon pour le chef de l'État de pouvoir suppléer à une certaine carence? L'État congolais n'a rien prévu à l'endroit des personnalités qui ont eu à occuper des fonctions importantes, comme cela est démise dans d'autres pays. Nous avons ici le sénateur Jacques Joly, qui est sénateur actuellement, qui a été aussi vice-président de la CENI, mais le jour où il n'est plus sénateur, et heureusement qu'il est professeur, mais s'il n'était pas professeur, il resterait, personne ne s'occuperait de lui, il resterait, n'est-ce pas, abandonné à son propre sort. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour le chef de l'État de vouloir prendre, en fait, mettre en place des mécanismes pour s'occuper des personnes qui ont eu à occuper des fonctions importantes au pays?
Monsieur Guy Maté, laissez-moi vous dire que vouloir traiter deux personnes de la même manière, c'est de l'injustice. On ne peut tout de même pas comparer le président de l'État à un sénateur. On ne peut tout de même pas comparer le président de l'État à un premier ministre, comparer le président de la République à un député. Donc, le président de la République, d'abord, j'ai insisté sur un élément, le fait qu'il soit élu au suffrage universel direct. Ce fait-là lui accorde d'abord un grand prestige, à partir duquel il est considéré comme l'incarnation de toute la nation.
Merci, professeur.
Ce qui n'est pas le cas d'un sénateur,
merci.
Ce qui n'est pas le cas d'un député.
Merci, nous revenons à vous, professeur. Étienne Vivien Kalongi, analyste politique indépendant et chercheur en résolution violente des conflits. Votre réaction par rapport à cette proposition de loi?
Oui, merci beaucoup, très cher estimé compatriote Guy Maté. J'en profite aussi pour saluer mes aînés, les professeurs Jacques Joly et le professeur Jeff Mudimbi. que j'apprécie beaucoup. Mais certainement, mon analyse situationnelle sur cette question m'entraîne à préciser d'abord à l'opinion nationale qui nous suit en ce moment que quelles que soient les prérogatives inscrites dans cette loi au bénéfice des anciens chefs d'État démocratiquement élus, ils ne seront jamais à l'abri de toute poursuite judiciaire des institutions judiciaires internationales sur les crimes imprescriptibles, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, si jamais cela est établi. Mais pour revenir à ta question, je pense que la question essentielle est de savoir pourquoi est-ce que cette loi vient d'être votée maintenant, alors qu'en 2015, elle fut une proposition de loi jetée dans les oubliettes des tiroirs du Sénat. Est-ce que c'est parce que le régime, en cette année-là, n'était pas encore prêt pour s'incliner à l'évidence de l'alternance et que maintenant, avec l'assurance de la machine à voter que certains qualifient de machine à tricher, que le régime estime que les manettes du pouvoir ne lui échapperont pas et que cette loi vient d'être votée? Cela pourrait être insensé que la proposition sur l'élargissement des privilèges de cette loi sur les dirigeants des autres institutions de notre pays, comme vient de le démontrer avec bravoure le professeur Jeff Modimbi, puisse être acceptée par le Sénat. Parce qu'il est tout à fait normal que cette institution puisse la rejeter, car c'est au nom de la facilitation de l'alternance que bien des privilèges soient inscrits dans cette loi en vue de garantir au chef d'État sortant d'extirper la peur de devenir un homme ordinaire susceptible d'être traité comme tout individu après l'alternance.
Étienne Vivien Kalonji. Étienne Vivien Kalonji. L'intitulé de la loi, c'est « Proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus ». Le mot « élu » est souligné. Mais une certaine, des fois, une situation non prévue peut se produire et déboucher sur l'accession au pouvoir d'une personne qui n'a pas été élue. C'est le cas de Michel Kafondo au Burkina Faso, le cas de Madame Catherine Samba Panza en République centrafricaine. Et donc, de telles personnalités ne vont pas bénéficier de ces privilèges tout simplement parce que elles n'ont pas été élues.
Oui, c'est évident. Comment pouvons-nous accorder beaucoup de privilèges à des personnalités qui sont venues par infraction au sommet de l'État? Parce que lorsque nous entrons, nous nous inscrivons dans la vie démocratique, c'est-à-dire que la souveraineté est remise au cœur de la population. Alors, dans ce jeu-là, c'est la population qui garantit à celui qui vient représenter le suffrage universel direct de pouvoir bénéficier de cette prérogative, et surtout que le professeur Jadézoni a précisé dans le sujet des motifs lié à l'histoire politique de notre pays, que suite à tout ce que nous avons connu dans le passé, il est tout à fait normal pour la première alternance de notre pays de pouvoir garantir à celui qui va peut-être accepter que puisse quitter loyalement son fauteuil pour le laisser à une autre, qu'il soit sécurisé. Mais je pense aussi, avec bien nombre de nos compatriotes, que les lois étant de nature dynamique, et puis, dans les prochaines législatures, si jamais la tenance est passée dans notre pays, c'est un prérogatif que bénéficie aujourd'hui cette loi-là qui a été votée. Cela pourrait être élaguée par rapport, parce que nous ne pouvons pas ici accorder les privilèges universels à des personnalités qui doivent normalement se considérer comme étant les premiers serviteurs de la nation. En termes de tête, nous sommes les premiers serviteurs de la nation. Donc, lui, il y a une certaine rigueur auprès de l'opinion nationale sur sa manière de gérer pendant tout son mandat. Et lorsqu'il quitte le pouvoir, nécessairement, il doit bénéficier de certains tribunaux, mais il ne doit pas ici serrer dans une sorte d'université où nous allons ici ne plus tenir compte de la rigueur de la loi ou de ne plus tenir compte de ce que nous appelons. l'amour de la pratique démocratique.
Étienne Vivien Kalonji, il y a cette problématique, n'est-ce pas, sur le respect de ce qui est convenu. Hein, nous sommes en Afrique, nous rappelons, n'est-ce pas, les cas de l'ancien président libérien Charles Taylor, qui avait été arrêté après avoir quitté les pouvoirs, alors qu'on lui avait promis, n'est-ce pas, certaines immunités au cas où il accepterait de quitter pacifiquement les pouvoirs. C'est ce qu'il a fait, et après avoir quitté les pouvoirs, il a été arrêté. Est-ce que le seul fait d'avoir cette loi suffit pour rassurer les personnes concernées?
Certainement, cela rassure les personnes concernées. Si jamais, comme je venais de l'entrée de jeu, il nous faut déjà que ces personnes ne seront pas exemptées des crimes imprescriptibles. Si, quand vous évoquez le cas Santaylor, vous savez tout ce que Santaylor a fait en Sierra Leone. Vous savez que quand vous êtes évertué dans le genre de commettre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, en tout cas, il est tout à fait difficile, en dépit de tout ce qu'on peut vous donner comme prérogative des habitants dans certaines dispositions au sein de l'Assemblée, pour que vous puissiez en bénéficier. C'est pourquoi j'ai dit dans l'entrée de jeu que quelles que soient les prérogatives qui peuvent garantir aux anciens chefs d'État dans notre pays, et bien comprendre qu'après la présidence, il y a eu une vie et que les législateurs a prévu de vous sécuriser, mais que cela aussi pousse à comprendre que nous pouvons jamais verser ou se vertuer dans la commission de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. À ce moment-là, ils ne seront jamais poursuivis parce que si vous êtes bien comporté pendant votre mandat, vous allez bénéficier de toutes ces prérogatives-là et puis vous allez contribuer à l'avancement de la société. Mais
merci.
Si vous êtes vertueux à commettre des crimes graves, il est tout à fait difficile qu'on puisse, si les juridictions nationales n'ont pas fait leur travail, les juridictions internationales pourront sans doute vous poursuivre.
Merci Étienne Vivien Kalonji. Professeur Jacques Joly, vous allez réagir à cette proposition que vous fait cet auditeur de Mbandaka.
Germain Yangembalia, étudiant en première licence à l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka depuis la ville de Mbandaka. Je salue d'abord l'adoption de cette loi par le Sénat, qui est une mesure pour favoriser l'alternance démocratique au sommet de l'État. Mais la question que nous posons aujourd'hui est de savoir pourquoi les sénateurs ont-ils attendu 3 ans plus tard pour adopter cette loi qui date depuis 2015, alors qu'ils devraient le faire avant la fin légale du mandat du président actuel. Peut-être cela pouvait lui arranger à respecter la Constitution vu les privilèges qui leur sont accordés par la présence, en plus de celles prévues par la Constitution. Et enfin, pourquoi ne pas renforcer cette loi par une mesure de contrainte en conditionnant son application aux présidents qui finissent leur mandat tout en respectant la Constitution et non à ceux-là qui violent délibérément la Constitution?
Professeur Jacques Joly.
Merci beaucoup. Avant de répondre à M. Germain de Mbandaka, je voudrais d'abord souligner, à ce qui concerne la déclaration de patrimoine, dire que la Constitution est claire là-dessus. À l'article 99, les présidents de la République et les membres du gouvernement doivent faire et déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, et 30 jours avant la fin de leur fonction, ils doivent faire également la même déclaration à l'administration fiscale pour permettre justement si oui ou non il y a eu enrichissement.
Chose qui n'est pas démise en RDC.
Je crois que nous parlons de normes et le président de la République, je crois qu'il a déposé sa déclaration devant la Cour et même devant, et ça a été transmis à l'ESPA, à la DGI. Nous espérons qu'il appartient maintenant à la Cour constitutionnelle de suivre, puisque il est dit dans les 30 jours suivant la fin de fonction, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Donc, le texte est là. Et en ce qui concerne les poursuites en cas de crimes graves, crimes internationaux, crimes contre la paix ou la sécurité, et crimes de guerre, je voudrais aussi rassurer notre frère Vivian que dans la loi, nous avons rappelé que le président, l'ancien président, en matière de crimes contre la paix commis, eh bien, il reste justiciable, même des juridictions nationales. Et par sur quoi des juridictions internationales? Pourquoi? Mais quelle est la différence? Tout simplement, il y a une primauté. C'est-à-dire, les juridictions internationales agissent dans le cas de la complémentarité. Et s'il y a un tel cas, nos juridictions bénéficient de la primauté, mais en aucun cas, alors en aucun cas, le Sénat a voulu instaurer l'impunité absolue.
Le président reste justiciable, comme vous le dites, mais est-ce que ce n'est pas là que le problème va se poser?
Le problème ne se pose pas parce que même si nous avons mis ça dans notre texte, mais les traités et accords internationaux prévalent, n'est-ce pas, sur le droit interne. Et à partir du moment où nous avons estimé que c'est conforme à notre constitution, eh bien, nous ne pouvons plus reculer là-dessus. Parce que ce sont des crimes qui choquent l'humanité. Il était fait que nous avons dit que l'juridiction interne bénéficie de la primauté, mais il est hors question, n'est-ce pas, que nous puissions confectionner une loi pour couvrir les délinquants internationaux. Par contre, je vais revenir à notre ami qui se pose la question pourquoi maintenant? Il faut dire que les débats au sein de la commission spéciale, parce que ce n'était pas une commission permanente, qui comprenait aussi bien les sénateurs de l'opposition, de la majorité et ce qui se disent du centre, nous avons pris du temps. Et ce n'était pas facile que nous puissions tous intérioriser que le pouvoir a une limite et que la monarchisation du pouvoir est un danger pour l'ensemble des États africains. Si vous analysez les conflits en Afrique aujourd'hui, ce sont des conflits qui sont liés au tripatouillage de constitutions, aux, comme on appelle, aux manipulations, aux conjugulations constitutionnelles pour rester éternellement au pouvoir, pour bloquer l'alternance. Et en proposant cette loi, et le Sénat, à l'unanimité pratiquement, nous avons voulu offrir à la nation un instrument susceptible d'apaiser le jeu politique. Ben, ça s'est fait à ce moment, ça a pris 3 ans, je crois qu'il a fallu préparer les esprits, mais c'est pas fini. Il faudra que la nation puisse convaincre aussi les amis de la Chambre basse pour qu'ils puissent regarder dans la même direction et que nous puissions décourager des collaborateurs ou des personnes qui peuvent venir raconter aux uns aux autres. Parce que nous avons remarqué que si les présidents de la République s'accrochent au pouvoir, ce n'est pas même parfois eux-mêmes, ce sont les personnes autour d'elles, autour d'eux, qui, n'est-ce pas, veulent leur faire peur. Merci. Ça, c'est une loi anti-peur.
Merci, professeur. Professeur Geoff Mudimbi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
C'est Djibouti-Moussoukini depuis Kisangani dans la province de la Diopo. Cette loi est à mon humble avis salutaire pour notre bien démocratie, car ce qui pousse les chefs d'État en Afrique à se rallier derrière la logique selon laquelle le président meurt au pouvoir et la peur d'être poursuivi par les instances internationales. Et pourtant, tous les anciens présidents français et américains ne subissent pas des poursuites malgré tout ce qu'ils commettent durant leur mandat, comme habit à travers le monde. Moi, je pense que cette loi encouragerait le président élu à respecter leur mandat et à demeurer sénateur comme c'est le cas dans d'autres lieux. Ceci étant, il faudrait que cette loi ait de préalable et détermine les infractions dont devrait être épargnée la responsabilité des chefs d'État. Car on ne peut pas quand même protéger quelqu'un qui avait commis des abus graves durant son mandat, au moins que ceci soit commis au nom de l'intérêt général du pays, comme c'est le cas avec l'intervention américaine au Golfe.
Oui, professeur Geoff Mudimbi.
Et merci beaucoup. Je salue le compatriote pour son analyse qui est tout à fait fondée. Je pense il me rejoint lorsqu'il soutient que c'est une loi qui est salutaire. Oui, c'est vrai, parce que cette loi-là nous permet effectivement de comprendre que, comme je l'ai dit encore avant, que l'élection, c'est la seule voie d'accès aux fonctions politiques, notamment les fonctions du président. Et puis, elle favorise aussi l'alternance au pouvoir. Surtout quand cette loi doit s'appliquer au président de la République qui accepte de quitter ses fonctions donc à la fin de son mandat conformément à la Constitution. Ça, c'est donc en cela, cette loi est vraiment salutaire. Mais je voudrais m'opposer à lui lorsque il cherche à comparer les pays africains, particulièrement la RDC, aux pays développés. Mais ici, je voudrais quand même préciser que aujourd'hui, en France, Sarkozy est quand même poursuivi pour des faits infractionnels qu'il avait commis bien avant ou même peut-être pendant son règne. Donc c'est vrai, la loi a des avantages, mais il ne faudrait pas comprendre que cette loi-là est là pour blanchir tous les actes, même tous les crimes ou toutes les infractions que les présidents peuvent commettre au cours de leur exercice. Mais ce qui est aussi une évidence est que, bon, les présidents des pays développés, parce qu'il en a parlé, parfois n'arrivent pas à subir les mêmes sorts comme les présidents des pays africains, parce qu'il faudrait comprendre que toutes ces institutions internationales, dans leur organisation comme dans leur fonctionnement, dépendent entre autres des États. Et ce sont les mêmes États-là qui les financent. Et les États puissants sont encore les grands bailleurs des fonds, c'est-à-dire contribuent plus au fonctionnement de ces institutions. Alors, c'est là que peut-être j'estime que ces institutions sont incapables d'agir sur les présidents des pays occidentaux, des pays occidentaux les plus développés. Ce qui n'est pas le cas pour notre pays. Donc, nous sommes faibles, bien entendu, sur le plan économique, mais cela ne peut pas vraiment nous empêcher ici de faire un effort pour aussi évoluer. Mais le plus important ici, c'est de demander au président de la République ou à quiconque exerce un mandat de comprendre que quand on gère un pouvoir, c'est pour l'intérêt du peuple, c'est pour l'intérêt général, plutôt que de gérer dans ses propres intérêts et penser que quand on exerce un pouvoir, on a le pouvoir de vie et de mort sur la population, ce qui n'est pas du tout correct.
Oui, professeur, j'ai relevé un aspect avec Vivien Kalonji, c'est celui du respect de ce qui est convenu. Hein. Et, évidemment, nous avons évoqué le cas de Charles Taylor, mais nous sommes en Afrique. Hein. Nous sommes en Afrique, vous savez comment les Africains gèrent leurs textes de lois. Et vous pensez que le seul fait d'avoir une loi suffit pour rassurer ces anciens présidents de la République quand ils savent que l'application des lois est aussi fonction de la volonté des personnes qui doivent faire respecter ces lois?
Je pense que c'est ici le lieu de faire intervenir le caractère impersonnel de la loi. En effet, si la loi est vraiment impersonnelle, elle est fondée sur les préoccupations profondes de la population. Et si nous avons aussi une culture politique du respect et des lois qui nous régissent, je pense que cette loi peut être une garantie pour les anciens présidents qui ont travaillé correctement. Et j'insiste sur cet aspect-là. Mais lorsque la loi a été taillée à la mesure d'un homme, c'est-à-dire elle ne revêt plus encore son caractère impersonnel. Alors à ce moment-là, il est tout à fait normal que celui qui viendrait, qu'il puisse vraiment remettre en cause loi-là.
Merci.
N'oublions pas que la loi n'a pas le caractère d'une constitution. La loi, on peut y revenir à chaque instant.
Merci,
mais
professeur.
Ce qui fait la force de la loi, c'est son caractère impersonnel.
Merci. Ce qui fait la force d'une loi, c'est son caractère impersonnel. Étienne Vivien Kalonji, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Kananga.
Corneille Moubabine à Kananga, dans la province du Kasaï central. Voter une telle loi n'est-ce pas favoriser le président au pouvoir à commettre les crimes et les actes contraires à la loi sans inquiétude parce qu'il y a une loi qui le protège à la fin de son mandat? La question qu'on se pose, pourquoi cette loi intervient seulement à la fin du mandat du président Joseph Kabila, car c'est lui l'unique président élu et encore vivant en RDC? Cette loi n'intervient-il pas pour sa sécurité et sa protection contre certains actes qui lui seraient peut-être rapprochés à la fin de son mandat?
Étienne Vivien Kalonji.
Oui, je salue le compatriote avec son analyse qui est tout à fait aussi pertinente. Mais il est ici intéressant aussi de reconnaître le sacrifice que nous Congolais devons consentir vis-à-vis des questions de l'heure.
parce que nous sommes un pays qui n'avons pas encore jusque-là bénéficié d'une alternance pacifique au sommet de l'État. Il y a bon nombre de sacrifices que nous pouvons consentir pour permettre à ce que cet événement heureux qui consacre l'émancipation de tout système démocratique puisse aussi devenir une réalité dans notre pays. Voilà pourquoi je me permets de comprendre, avec les arguments qui ont été développés sur ce plateau par le professeur Jacques Joly, qui est sénateur, qu'effectivement, il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de violences, et la classe politique, en particulier les législateurs qui sont, ont dû consentir. Il entre dans les détails pour dire que les anciens chefs d'État, ce plan-là prévoit les prérogatives liées à la sécurité, à l'honneur, au privilège diplomatique. Donc nous avons compris que ce qu'ils ont ajouté au-delà de ce que la loi des lois avait prévu, le statut de sénateur en vie, et ont considéré que cela ne pouvait pas garantir à celui qui dirige pour qu'il puisse bénéficier de ce que la Constitution avait prévu. J'ai compris que ce sont effectivement les sacrifices que nous, Congolais, devons consentir à ce moment ici, parce que nous avons besoin d'une passation pacifique du pouvoir et que le sort de notre démocratie, ce processus, soit effectivement une réalité.
Merci, professeur. Merci, professeur Jacques Joly. Il a dit que les privilèges seront accordés aux seuls anciens présidents de la République élus ayant assumé valablement leurs fonctions et quitté le pouvoir à la fin de leur mandat, conformément à la Constitution. Est-ce que dans la pratique, l'application de cette loi ne va pas poser problème?
Ben, écoutez, la loi votée pour l'avenir, et comme a dit le professeur Moudimbié, nous devons nous intérioriser. Outre le caractère impersonnel de la loi, son caractère impératif. Nous avons estimé, en toute responsabilité, en tant qu'élus indirects, et nous espérons que les élus directs, pour ces temps-ci, mais pas simplement pour nous, en fait, Alain Hiroung, la démocratie, ce n'est pas l'élection d'un président. La démocratie, c'est le passage du flambeau d'un président élu à un autre président élu.
Et professeur, en conclusion, pour les cas, je l'ai rappelé ici, des personnes qui accèdent au pouvoir alors que, en fait, il y avait une situation imprévue, ils accèdent au pouvoir et ces personnes ont empêché à leur pays de basculer dans les chaos, comme Michel Kafondo. Ces personnes-là ne peuvent pas bénéficier de ces privilèges.
Le problème de Michel Kafondo ou de Catherine Panzamba et autres, ce sont des présidents de transition. Et je vous ai dit qu'il y a eu un décret de 2006 qui a accordé un certain nombre de privilèges au président et au vice-président de la transition et ses avantages. C'était notamment le droit à un passeport diplomatique, un avantage par exemple en matière d'une pension, mais c'était limité. Merci. Donc ici nous sommes en train de régler le problème de tous les anciens présidents élus qui vont quitter le pouvoir conformément à la Constitution,
professeur,
et qu'il exerce conformément à la Constitution.
Professeur Moudimbi, votre conclusion, en un mot.
Bon, que cette loi soit respectée, je pense qu'elle sera bénéfique pour la RDC.
Étienne Vivier Kalonji, un mot en guise de conclusion.
Au nom de la démocratie, nous acceptons cette loi, mais sachez très bien que la loi est de nature évolutive.
Merci, c'est la fin de cette émission et bon suite de programme sur Radio Capitole.